une heure avant la fin du monde.
La mort, cette fatalité qui est présente dans toutes nos vies. La fin des problèmes, mais pas vraiment, car figurez-vous que même mort, on pollue. Selon les croyances, les coutumes et les moyens, il existe de nombreuses façons de s'occuper de nos défunts. Nous les exhumons, les brûlons ou les entreposons. Cependant, avec les modes de vie qui ont évolué, le corps est exposé à beaucoup de substances, comme les métaux lourds, les résidus chimiques et autres traitements médicaux, les pollutions, l'alimentation et tous ces additifs. Autant de substances toxiques et nocives qui, après notre mort, polluent les sols et l'atmosphère. Couplées aux pesticides et aux produits utilisés pour l'entretien des cimetières, les morts sont aujourd'hui une question centrale de la pollution. Vous écoutez Une heure avant la fin du monde, je m'appelle Guillaume, nous sommes le 31 octobre 2019 et vous l'aurez compris, pour cette spéciale Halloween, nous parlerons mort, cimetière et environnement. Donc nous sommes ce soir avec notre invité, Michel Kavnik. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Donc vous êtes le président de l'AFIF, Association Française d'Information Funéraire.
Exact. Cet organisme est un organisme loi 1901 que j'ai créé il y a un peu plus de 25 ans. C'est une association qui a une mission très simple, permettre à toute personne d'être critique, informée, de prendre des décisions en toute connaissance de cause, savoir comment sélectionner une société de pompes funèbres, ce qui est très important, quels sont les produits, les services, ce qui est obligatoire, pas obligatoire, ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut pas accepter.
Parfait. Merci de vous joindre à nous. Et autour du micro avec nous ce soir, Charlotte, Bruno et Florent à la régie. Bonjour tout le monde.
Salut.
Bonsoir.
Donc, avant toute chose, je vous propose de commencer par quelques chiffres. Selon l'INSEE, en France métropolitaine, l'espérance de vie à la naissance atteint près de 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes en 2018. Cette même année, donc l'année dernière, on a pu compter à peu près 610 000 décès. Comme je vous l'ai dit, c'est des chiffres qui concernent seulement la France, mais à l'échelle mondiale, nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards de personnes actuellement vivantes. Et sur l'année dernière, il y a eu 55,3 millions de morts, donc beaucoup de personnes. Pour aller encore plus loin, le PRB, Population Reference Bureau, a mené une petite étude afin de connaître l'évolution de la population ces 50 000 dernières années. Donc bien sûr, il n'y a pas d'archives assez anciennes, mais avec des scientifiques de tous bords, le PRB a pu estimer à environ 108,5 milliards le nombre de personnes ayant déjà vécu depuis cette période et reposant maintenant sous nos pieds. Cela représente grosso modo 15 morts par personne vivante. Donc ces chiffres peuvent faire un peu froid dans le dos, mais ils permettent de comprendre le fait que s'intéresser à la mort n'est pas inutile, puisqu'en dehors du fait que cela concerne tout le monde, faut pas s'inquiéter, on va aborder le sujet tranquillement. Donc la question qui nous brûle tous les lèvres déjà, c'est comment est-ce qu'on gère tous ces morts finalement, surtout en France ?
Alors, il y a une législation, en effet, qui gère le devenir donc de chaque Français et être vivant. Quand il y a un décès, il va falloir se faire un choix. Soit ce sera une inhumation en cimetière, soit une crémation. Dans d'autres pays, vous avez d'autres rites, mais en France, seule l'inhumation et la crémation donc, sont acceptées. La crémation prend de plus en plus d'importance. En 1975, il y avait à peu près 0,2-0,3% de crémation. À ce jour, on en est à 39-40%. Donc, c'est un rite qui est, je dirais, qui répond aux évolutions des mentalités, à l'éclatement de la cellule familiale, aux problèmes économiques, à la dématérialisation du souvenir. Et aussi à la baisse de l'influence religieuse, bien entendu, puisque la crémation était absolument interdite par l'Église catholique jusqu'en 1963.
D'accord, donc ça, du coup, ça a évolué, aujourd'hui c'est autorisé ?
Alors, l'Église catholique préfère l'inhumation du cadavre. Il n'est pas possible de faire, sauf accord spécifique de l'archevêque, une cérémonie religieuse devant une urne cinéraire. Mais par contre, il n'y a plus excommunication. Et nombre de personnes qui sont habituées, même si elles sont assez peu croyantes, à une cérémonie, une simple petite bénédiction qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, en tous les cas, donc peuvent demander une cérémonie religieuse avant le départ pour le crématorium.
Et si j'ai bien compris, pour les autres grosses religions, la religion musulmane ou la religion juive, normalement, dans les textes, on est censé être enterré dans un suaire et non pas dans une boîte. Ça, la législation française l'interdit, c'est ça ?
Alors, quand il y a un décès, qu'il y ait inhumation en cimetière ou crémation, obligatoirement, il doit y avoir une mise en cercueil, quelle que soit d'ailleurs la religion. Puisque, bon, même si les juifs, les musulmans n'acceptent pas les pratiques de la crémation, en tous les cas, ils doivent être mis dans un cercueil. Généralement, il y a aussi des sceaux de police, des sceaux de cire. Et pour répondre à une volonté, je dirais, normale qu'il peut y avoir dans d'autres pays, mais pas en France, mettons pour les juifs ou les musulmans, d'être inhumés directement en pleine terre, uniquement entourés donc, d'un suaire, eh bien, des sociétés de pompes funèbres percent un petit trou dans le cercueil afin qu'au dernier moment, il y ait un petit peu de sable ou un petit peu de terre qui soit mis à l'intérieur du cercueil, ce qui reviendrait, je dirais, à une inhumation sans cercueil.
D'accord. C'est pas une boîte hermétique, ça rentre dedans. une autre question du coup, pourquoi est-ce que la mort c'est un sujet un peu tabou ? Parce qu'on a l'impression que c'est un sujet qu'on n'aborde pas tellement, sauf à cette période de l'année, au moment d'Halloween et de la Toussaint. Est-ce que vous savez un peu ça, vous qui êtes dans l'association ?
Écoutez, humainement parlant, il est sûr que si tout le monde se pose des questions sur le devenir après ce dernier virage, sur sa mort, il est toujours extrêmement difficile et presque impossible pour des personnes d'avoir des réponses à ces questions, parce que rentrer dans une société de pompes funèbres, on a des sueurs froides dans le dos, c'est tout à fait normal. Et donc la mort, les gens ne préfèrent pas en parler, bien que si tous les jours vous levez en pensant à votre mort, bon, la vie sera peut-être, deviendra très très vite aussi invivable. Et c'est pour ça donc que cet organisme a été créé, parce que toute personne se pose des questions et par l'intermédiaire de notre organisme, soit il y a un site internet, soit une permanence téléphonique, toute personne peut avoir réponse, je dirais, à toute aide et répondre à toute question.
Bruno, tu as une question ?
Ouais, ce tabou en fait sur la mort, il n'est pas présent dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. Il y a des endroits où la mort est parlée, on en parle beaucoup plus librement. Il y a même un accompagnement de croire que les morts restent vivants, etc. C'est plus dans les sociétés occidentales qu'il y a ce tabou et cette absence de discussion autour de la mort, qu'une fois que c'est fait, on n'en parle plus, on l'écarte. Et ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs, dans nos sociétés.
Alors, il y a une évolution des mentalités qui atteint aussi donc, la disparition et la mort, dans le sens qu'auparavant, il y avait des veillées funéraires, que c'était les personnes de la famille ou des proches qui s'occupaient de la toilette, qui s'occupaient de l'habillage, du maquillage. Il y avait donc des rites qui existaient. Maintenant, je dirais aussitôt que quelqu'un est un petit peu mal, même si une personne âgée qui aurait désiré décéder chez elle, eh bien on l'emmène manu militari avec un SAMU, ça coûte très cher à la société, et malheureusement, souvent, ces personnes vont décéder dans les courants d'air des services d'urgence des hôpitaux. Il n'y a plus de cris dans les hôpitaux, il y a de magnifiques molécules, etc., qui font que les gens ne souffrent plus, ne crient plus, mais il y a, je dirais, une séparation au niveau social entre l'être vivant et la personne défunte. Ensuite, donc, ça, c'est du côté donc, des familles. Du côté des professionnels du funéraire, des pompes funèbres, il y a toujours existé une volonté de ne surtout pas communiquer afin de mieux avoir sous contrôle les familles et de faire que les obsèques soient extrêmement chères sans que les familles puissent éventuellement comparer ou mettre en concurrence. Donc, tout cela fait que il n'y a pas véritablement une communication en France sur les obsèques, sur le deuil et sur cet acte de sélectionner une société de pompes funèbres en sachant que le montant des obsèques par son niveau est la troisième dépense pour une famille après l'achat de l'habitat et l'achat de la voiture.
Ce qui n'est pas négligeable. Je vais laisser maintenant la parole à Flo, qui n'est pas venu seul, si j'ai bien compris.
Merci. En effet, Guillaume, aujourd'hui, pour cette chronique, mesdames et messieurs, nous avons l'insigne honneur d'avoir en notre présence le docteur en thanatologie, professeur de chaire supérieure à l'ULA, l'Université de la Lantagonie, prix Nobel de la mort et taxidermiste à ses heures perdues, le docteur, ou doit-on dire professeur, Frankenstuck ?
Bonsoir, chers amis vivants. Vous pouvez dire docteur, hein, je préfère.
Bienvenue dans notre émission alors, docteur. Comment allez-vous ?
Mortel, hein, comme disent les jeunes de nos jours.
Ah, bien. Alors ici, ce soir, nous parlons de la mort, des cadavres et de décomposition, et on a tout de suite pensé à vous, docteur Frankenstuck. Alors, première question, cette passion pour la mort, d'où ça vient ?
Eh bien, figurez-vous que depuis ma plus tendre enfance, j'ai su que la mort serait toute ma vie. Hein. À partir de ce moment-là, je n'ai fait que m'intéresser à ça. On en apprend d'ailleurs beaucoup, hein, de la mort. Au fond, je pense que j'ai toujours été mort, passionné par la mort. J'ai l'impression que cela fait des siècles d'ailleurs.
D'accord. Alors comme nous le disions en introduction, vous donnez des cours à l'Université de la Lantagonie dans deux sections différentes, à la CSEM, la section d'études du cadavre et de l'enveloppe corporelle des Maccabées, et à la SEMD, section d'études de la mort et du décès. Alors pouvez-vous nous parler un peu de cette université et des cours que vous y donnez ?
Eh bien, en fait, il y a des dizaines d'années, avec plusieurs collègues décédés, nous avons eu l'idée d'ouvrir cette université. Mais en fait, ce n'est que depuis septembre de cette année, justement, que le projet s'est concrétisé.
Alors pardon, je vous coupe, mais où se situe cette université pour les non-initiés comme moi ?
Alors justement, c'est intéressant parce que nous l'avons installé dans les catacombes de Paris, hein, où le taux d'humidité et la température sont idéales pour nous conserver, les cadavres, objets de nos études. Et donc, dans cette université, j'effectue deux cours. Hein. Le premier est un cours qui s'intitule « Rites funéraires insolites ». Dans ce cours, j'évoque les rituels funéraires les plus insolites que j'ai pu lancer sur Terre, retrouver sur Terre. Ça va de la cérémonie au Japon où les proches vont déposer les os qui restent après la crémation un à un dans une urne en partant des pieds vers la tête. C'est aussi le retournement des morts à Madagascar où toute la famille danse en portant le mort. Ou bien le rituel des Toraja en Indonésie qui déterre les morts chaque année afin de passer du temps avec eux comme s'ils étaient vivants. Hein, ils le nettoient, le coiffent, l'habillent, le parfument et le promènent.
Intéressant. Mais alors, vu que vous êtes expert et que nous nous intéressons ce soir aux conséquences écologiques de nos cadavres, est-ce qu'il y a des rituels funéraires plus écologiques que d'autres ?
Eh bien, figurez-vous, oui, qu'il y a bien le rituel Shingon, hein, qui voit des moines s'enterrer vivants en mangeant au préalable des quantités d'herbes, de graines, d'écorces ou d'aiguilles de pin. Hein, ça doit momifier le corps, mais en réalité, bon, ça n'a réussi qu'une vingtaine de fois. Et puis je dois vous avouer que c'est assez difficile de se motiver à le faire. Hein. Sinon, il y a aussi l'inhumation céleste des Zoroastriens en Iran. Hein, ça consistait à mettre les cadavres en haut d'une montagne ou d'une tour et de les laisser se faire dévorer par les vautours, permettant à l'esprit de s'élever. C'est une sorte de recyclage, non ?
Oui, en effet.
Après, nous avons aussi réfléchi à d'autres méthodes encore en réflexion. Hein, utiliser les cadavres pour faire du compost, envoyer nos cadavres dans l'espace, envoyer nos cadavres dans les fonds marins, les manger, hein, le transfert de l'esprit dans un robot, bref, tout est possible. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui évoque toutes ces différentes pistes. Hein, quoi faire des cadavres réellement morts, ça s'appelle.
Ah oui, c'est intéressant, on a hâte de le lire.
Oui, et donc mon deuxième cours a comme titre « La vie après la mort ». Hein, nous apprenons comment se passe la vie après la mort.
La vie après la mort ? Mais alors comment l'étudiez-vous ? D'après les textes de différentes religions ? Des textes historiques ? Comment ?
Oui, évidemment, hein, d'après des textes. Hein. Mais j'ai même d'ailleurs écrit un guide, hein, « Comment se débrouiller lorsqu'on est mort ». J'y évoque les nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous, les morts.
Eh bien, merci. Attendez, pardon ? Vous venez de dire que vous étiez mort ?
Mais non, certainement pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'une fois mort, c'est compliqué. Donc, mon guide permet de mieux vivre sa mort. Hein ? D'ailleurs, j'ai des slogans, mais j'hésite encore. Ne restez pas macabé sans espoir, mais devenez un cadavre esquis. Ou bien, pas de fatalité dans la mort. Regardez plutôt, j'ai beau être mort, je suis fort.
Ah, là, vous l'avez redit.
Non. Alors, en tout cas, si vous êtes mort et que vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à venir nous voir à l'université de la Lantagonie. L'ouverture est ce soir dans les catacombes. Vous descendez le puits juste en face. Ensuite, vous troisième à gauche, deuxième à droite, et vous toquez sur le septième cercueil où une bougie en forme de crâne est allumée. Je serai heureux de vous accueillir dans mon bureau, dans mon tombeau, pour un entretien. Sur ce, l'éternité n'attend pas.
Oh, Guillaume, Charlotte, vous avez vu, il a disparu.
Qui a disparu?
Bah, le docteur Frankenstuck.
C'est qui ça?
Bah, vous l'avez pas vu?
Bah non, et... je t'ai demandé de faire une chronique et...
Comment ça? Bon, bah, c'est n'importe quoi, cette émission. Allez, je reste pas là, moi.
Ok, bon, bah, merci Flo. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant d'aborder la question environnementale. Le temps pour nous de retrouver l'équipe au complet.
Ouais,
à tout de suite.
C'est l'histoire d'un petit ver de terre qui s'en allait faire un tour au cimetière, chercher le plus joli tombeau pour y ronger des os. Une fois son repas fini, il s'en alla se reposer dans une prairie. Et au même moment et au même endroit, un pêcheur cherchait des appâts. Le petit ver sentit la terre trembler et vit le couvercle du bocal se refermer. Puis dans un sac à dos avec d'autres copains asticots, il fut emmené près d'un ruisseau. Mi-mort, mi-vivant, au bout de son hameçon, il dandinait des fesses pour attirer les poissons. Et à partir de là, tout est allé très vite, il s'est retrouvé dans une truite. Le moustachu rempli de fierté pourra bomber le torse ce soir au dîner, quand sa femme préparera à la crème fraîche le fruit de sa pêche. Notre ami le ver ne faisait pas le fier dans le colon du poisson au milieu des pommes de terre. Quand enfin on servit le plat, il s'est dit c'est fini pour moi. Les enfants étaient contents, surtout la petite. De tous les poissons son préféré c'est la truite. On lui donna la plus grosse part. Oh là là, quelle histoire! Elle qui était triste d'avoir perdu son papy, peut-être fière d'avoir eu en elle un peu de lui. Et plus tard, car la vie est ainsi faite, elle laissera son papy aux toilettes. Il faut être gentil avec les vers de terre, grâce à eux, les morts reviennent sur terre. Il faut être gentil avec les vers de terre, car dans certains d'entre eux, il y a nos grands.
Et voilà, c'était Guédry. Bonsoir, bonjour. Vous êtes sur Radio Campus Paris pour une émission une heure avant la fin du monde spéciale Halloween en compagnie de Michel Kiavnik et il nous reste 45 minutes. Donc pour aborder les problèmes environnementaux liés à la mort et à leur gestion, commençons par la partie un peu immergée de l'iceberg, les cimetières. C'est un peu ce qu'on voit partout. Est-ce que, Michel, vous savez, il y a combien de cimetières en France?
Chaque ville ou commune doit avoir son propre cimetière. Donc il y a autant de cimetières que de villes ou communes en France. En sachant que toute personne, soit qui habite, qui a un domicile, soit qui décède sur cette ville ou commune, soit qui est ayant droit d'une concession de famille, peut être inhumé dans le cimetière ou un des cimetières de cette ville ou commune. Pour exemple, Paris a une vingtaine de cimetières, 14 cimetières intramuros parisiens, ils sont tous pleins, et 6 cimetières extramuros à Paris.
D'accord. Et est-ce que du coup vous savez pourquoi, enfin vous pouvez nous dire pourquoi un cimetière c'est pas vraiment écologique?
Alors maintenant les cimetières doivent, je dirais, n'est plus possible d'épandre des désherbants et autres, puisque la gestion du cimetière doit être identique à la gestion des parcs et jardins donc de France. Mais naturellement un cadavre, je dirais, très polluant, parce que durant toute la vie, vous accumulez des métaux lourds, du plomb, du mercure, et puis d'autres molécules médicamenteuses. Et lorsqu'il va y avoir inhumation, tous ces produits toxiques vont venir tuer la terre des cimetières. Et s'il y a eu en plus des soins de thanatopraxie, c'est-à-dire l'injection de 6 à 10 litres de produits formolés, ce formol, à plus ou moins long terme, va aller polluer les nappes phréatiques.
On peut rappeler brièvement à quoi sert le formol ? Pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas.
Alors, le formol est un produit chimique qui existe depuis très longtemps et qui a la particularité de pouvoir conserver, à température ambiante, un corps durant un nombre déterminé de jours. Le formol est employé par les thanatopracteurs, c'est-à-dire des personnes qui ont été formées, qui sont spécialisées, et qui l'objectif est de remplacer le maximum de liquide, du sang, de la lymphe par ce formol et de remplir toutes les cavités où il y avait du gaz afin que la personne soit entre guillemets regonflée par le formol, donc qu'elle pâtisse moins d'un aspect cadavérique et d'autre part que ce formol puisse conserver à température ambiante pendant quelques jours le corps. Malheureusement, Mann, société de pompes funèbres, pour des raisons uniquement lucratives, ne propose pas mais impose pratiquement aux familles ces injections de produits formolés extrêmement polluantes sous les termes de soins de présentation, soins somatiques. Les familles ne savent pas de quoi il s'agit, mais en tous les cas, cela fait rentrer 500 à 600 euros dans les tiroirs caisses des sociétés de pompes funèbres.
Parce que, si je ne m'abuse, le formaldéhyde a été classé comme substance cancérogène avérée pour l'homme.
Tout à fait. Nombre de thanatopracteurs, ceci est délétère pour les thanatopracteurs eux-mêmes, pour les personnes qui travaillent dans les chambres mortuaires, les chambres funéraires, et parfois même pour les familles qui viennent se recueillir auprès des défunts.
Et j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas, puisque ce produit-là, c'est un produit chimique. Du coup, ça existe depuis quand à peu près ce procédé-là et ce produit chimique ?
La formolisation ou la thanatopraxie existait depuis très longtemps aux États-Unis et au Canada. Mmh. Aux États-Unis, c'était l'armée qui s'en servait pour rapatrier les corps de ses soldats. Mmh. Et la thanatopraxie a été lancée en France dans les années 60-70, sans tenir compte que ce sont des produits qui sont extrêmement dangereux, qui sont très toxiques. Et maintenant, il y a un véritable retour en arrière. Il n'est plus possible d'injecter ces produits dans le corps d'un défunt au domicile. Ceci doit être fait dans une salle de travail très spécialisée, soit au sein d'hôpitaux, soit dans les chambres funéraires privées, funérariums.
Oui, puisqu'on fait un peu d'histoire, est-ce que les pratiques d'embaumement qui pouvaient exister par le passé, alors je pense aux momies, mais je pense qu'il y en a un certain nombre d'autres, est-ce qu'il y a un creux complètement entre ces pratiques très anciennes et la thanatopraxie moderne, ou est-ce qu'il y a eu des embaumements qui ont été pratiqués un peu tout au long de l'histoire ?
Alors, à ce jour, la thanatopraxie, comme je l'ai dit, c'est d'ôter le maximum de liquide et de réinjecter à la place du formol. Ceci n'a strictement rien à voir avec les techniques traditionnelles employées par les Égyptiens, où il fallait ôter la cervelle, ôter les viscères, etc., faire couler du goudron dans le corps. Ceci est totalement interdit en France, la thanatopraxie n'a rien à voir avec ces techniques ancestrales.
Pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai vu une petite étude qui datait de 2014, qui commence à dater, mais qui en fait montrait que l'impact environnemental, notamment du traitement des cimetières, tout ce qu'on a dit pour les espaces verts, etc., finalement les communes acceptent, les communes disaient qu'en gros 70% des communes qui utilisaient les, enfin qui ont décidé d'arrêter d'utiliser les pesticides utilisaient encore en fait des pesticides dans les cimetières. C'est-à-dire qu'il y a que 17% des communes en France qui utilisent des pesticides pour les espaces verts, mais il y a 72% qui en utilisent pour les cimetières. Et apparemment, ça serait lié aussi au fait que vu que c'est très minéral, avec beaucoup de pierres, de stèles, forcément la mousse, les herbes poussent plus vite. Et du coup, il faut les traiter pour le respect et le côté un petit peu aseptisé des cimetières et des morts.
Alors, c'est le maire qui est responsable à la fois de la gestion, de l'entretien et de la police des cimetières. Si des maires agissent contre la législation et agissent à l'encontre de l'intérêt donc de ses habitants, je dirais ceci n'est pas normal. Et il y a des élections de maire, et ben il suffit de changer le maire parce que ceci, il n'est pas normal. Alors que des maires, eh bien, font le nécessaire justement pour que les agriculteurs ne traitent pas près des maisons, etc., près des habitations. Il n'est pas normal qu'un maire veuille se servir de ses stocks de produits toxiques pour faire mourir sa population.
Il y a aussi dans cette partie un peu pollution des cimetières, quand on prend en fait à plus grosse maille, c'est-à-dire qu'on regarde, par exemple les tombes en général sont creusées de manière mécanique avec des engins de chantier, donc du coup consomment de l'essence, beaucoup ont des caveaux qui sont bétonnés, cimentés, avec des étanchéités faites avec des joints, les pierres souvent sont issues donc, de marbre, granit ou autre contenu un petit peu organique, mais qui pour beaucoup, en fait, viennent parfois des pays d'Asie et notamment de la Chine, en raison du coût, qui du coup est moindre. Et finalement, il s'avère qu'une stèle peut avoir un impact environnemental énorme, là où au final, nous, ce qu'on voit juste, c'est une pierre, quoi.
Alors, il est en effet possible de réduire la pollution et les conséquences, je dirais, sur la planète. Premièrement, en n'acceptant pas donc des techniques d'injection de produits chimiques délétères, tels que le formol. Ensuite, en faisant attention de prendre des cercueils, puisqu'un cercueil est obligatoire, mais éventuellement de ne pas prendre des cercueils avec des vernis au polyuréthane, qui sont aussi des poisons, mais plus des cercueils avec une petite couche de cire. Peut-être d'insister auprès de sociétés de pompes funèbres pour avoir des cercueils en matériaux complexes de papier, dit un peu vulgairement cercueils en carton, qui respectent la nature, qui sont faites à base de fibres recyclées, de colle à l'eau.
Bon, ça, on reviendra un petit peu sur ce sujet tout à l'heure.
Oui, ceci est important. Et la construction d'un caveau n'est pas obligatoire. Il y aura en tous les cas toujours disparition du corps. S'il y a un caveau, ceci évite au cercueil d'être au contact de la terre, mais rien n'empêche quand même ça, la disparition du corps. Et si c'est une inhumation en pleine terre, je dirais, selon aussi le travail qu'il y a à faire, bien sûr que ceci peut être fait à la main, mais vous savez, de plus en plus, il y a nombre de gens partisans du moindre effort, et dans les cimetières, de la même manière, il y a des engins très polluants qui vont creuser dans les cimetières des fosses, mais on ne peut pas le reprocher à tout le monde non plus.
Oui. Il y a aussi un chiffre moi, qui m'a un peu impressionné, c'est donc on a parlé donc, des liquides d'embaumement, donc 6 à 10 litres, et en fait finalement sur ces 6 à 10 litres de fluide, il n'y a que 2 à 5 millilitres maximum de formol d'après ce que j'ai vu, mais si on met un peu à l'échelle du territoire, il y a un article qui est paru en 2011 dans la revue Résonance Funéraire et qui estimait qu'en fait le formaldéhyde pur enterré dans les cimetières français, ça s'élève à 119 tonnes, donc environ 3,3 kilos par cimetière répartis entre les 36 000 communes du territoire. C'est énorme.
Alors, il y a... chaque thanatopracteur pense parfois qu'en augmentant les doses de formol, ce sera mieux. Donc le résultat sera meilleur et il sera plus facile d'obtenir donc un bon résultat. C'est pour ça que les 2 ou 3%, je ne vous suis pas trop. En sachant que le formal a une grande qualité, c'est qu'il ne coûte pas grand-chose. Il y a des produits à l'étranger qui sont alternatifs donc au formol, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Et pour les thanatopracteurs ou les sociétés de pompes funèbres, eh bien, ceci peut être un grave défaut dans la rentabilité de l'entreprise.
Il y avait aussi une question, finalement, ça recoupe un peu ce que disait Florian tout à l'heure. Le problème, en fait, c'est un peu un problème moderne, j'ai l'impression. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui avec toutes les questions environnementales. Mais le fait de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'industrie, les polluants, les nourritures transformées, la médecine, la chimie, les traitements sur les vêtements, les traitements d'embaumement, tout ça, finalement, c'est des choses qui sont arrivées, grosso modo, sur le dernier siècle. Est-ce que, en fait, avant, on pouvait considérer qu'une inhumation était plus neutre pour l'environnement ?
Alors, qu'il n'y ait... Bon, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous accumulez des toxiques, vous accumulez des métaux, vous accumulez... Est-ce qu'il y a un siècle, peut-être que la nourriture était peut-être plus saine ? Point d'interrogation. D'autre part, il y avait, je dirais, des rites beaucoup plus naturels pour l'inhumation. Il n'y avait pas de crémation, mais pour l'inhumation, donc il n'y avait pas d'injection donc de produits toxiques. Et naturellement, les cercueils aussi étaient beaucoup plus simples. Et si c'était des vernis, c'était des vernis moins polluants que les actuels vernis modernes. Donc peut-être que la terre des cimetières ainsi que la population bactérienne qui s'occupait de la dégradation normale du corps était rendue favorable. Mais là, je ne saurais trop y répondre.
D'accord.
Il y a peut-être aussi le fait d'avoir une espérance de vie plus longue qui fait qu'on accumule aussi peut-être plus dans une vie de 80, 90 ans.
C'est un petit peu
ans.
Un cercle aussi, puisque c'est grâce à tous ces trucs qu'on vit aussi plus longtemps. Et du coup, forcément, ouais. On les accumule plus longtemps dans notre organisme.
Bon, je crois qu'il n'y a pas que les ours blancs qui accumulent le plomb, le mercure et les microparticules de plastique.
C'est ça. Donc du coup, je vous propose de faire une autre petite pause. Et de se retrouver pour continuer nos échanges juste après une petite intervention de Michael Jackson. We'll be right back.
stenches in the air. The funk of 40,000 years and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Vous êtes toujours dans Une heure avant la fin du monde sur Radio Campus. Il nous reste 30 minutes pour sauver le monde. Alors Charlotte, apparemment Michael Jackson, ça t'a inspiré.
En effet, Guillaume, cette chanson m'a rappelé une histoire entendue au coin du feu, un soir d'orage. Une histoire de zombies, évidemment. Mais pas de Walking Dead, Zombieland ou autre création hollywoodienne. Pas de cadavres putréfiés, décérébrés, à la recherche de chair humaine à dévorer, ayant pour fond sonore des râles inquiétants et le schmouk-schmouk des viscères sanguinolents consommés à même leurs propriétaires agonisants. Non, l'histoire se passe dans les Antilles. En Haïti, pour être exact. Est-ce que vous êtes prêts pour un périple dans les limbes de l'imagination antillaise entre mythe et réalité, avec des petits bouts de science dedans ?
Oui.
Et oui, c'est bien en Haïti que les zombies trouvent leurs origines. Dans la religion vaudou, le zombie, sans E d'ailleurs, désigne des esprits, des démons, des revenants. Et voici l'histoire de Clervius Narcisse. Cet homme aurait été déclaré mort en 1962, des suites d'une maladie à l'hôpital des Chapelles à Haïti. Il aurait été enterré le lendemain dans un village et on n'aurait plus entendu parler de lui jusqu'à ce que, en 1980, soit 18 ans plus tard, un homme accoste la sœur de Clervius Narcisse et se présente comme son frère. Il raconte avoir été frotté par une poudre de zombie, avoir assisté impuissant à son propre enterrement. Il raconte qu'on l'a ensuite déterré puis forcé à travailler comme esclave dans une plantation avec d'autres zombies. Il dit avoir été victime d'une zombification sur commande de son frère. Afin de les conserver dans cet état de mort-vivant, les esclavagistes les auraient drogués. Clervius Narcisse aurait réussi à s'échapper après qu'un surveillant ait oublié de lui donner sa dose de drogue journalière. Eh bien, figurez-vous que cette histoire est peut-être vraie, ou en tout cas similaire à d'autres histoires vraies. Ça donne la chair de poule, non ? En Haïti, des poisons simulant la mort ont pu être, et sont peut-être encore utilisés. La recette ? C'est pas très clair, mais ce poison serait à la base de tétrodotoxine, une neurotoxine extraite du foie d'un poisson qui agit sur le système nerveux. Elle bloque la propagation des messages nerveux au niveau des nerfs sensitifs et moteurs et peut être mortelle. Selon la dose, elle provoque un simple engourdissement de la zone orale ou un engourdissement de la langue et des muscles du visage ainsi que des problèmes d'élocution ou à haute dose, une détresse respiratoire, un rythme cardiaque ralenti qui peut entraîner une perte de conscience. Cette neurotoxine serait mélangée à des psychotropes qui modifient perception et état de conscience. En fait, ces poisons sont administrés par des sorciers vaudous qui font office de juges et condamnent à ce sort des criminels ou des individus dangereux pour la société, la justice en Haïti étant souvent ralentie, notamment par les catastrophes naturelles qui frappent l'île. Le sorcier administre le poison à sa victime, qui tombe dans un état de mort apparente. On la place alors dans un cercueil, en lui maintenant les yeux ouverts. La personne est consciente, elle voit tout, elle entend tout, elle comprend tout. Vous imaginez entendre la terre tomber sur votre cercueil, les lamentations des personnes présentes à votre enterrement. La victime est donc enterrée, puis le sorcier revient plus tard déterrer le corps. Extrait de sa tombe, on lui administre un antidote, puis on lui donne une drogue hypnotique qui la rend amnésique et sans volonté. Alors, elle fait pas peur cette histoire ? Bon, rassurez-vous, la zombification est punie par le code pénal haïtien, au même titre qu'un assassinat. Il paraît même que certaines personnes au barreau de Port-au-Prince proposent de mettre en place un certificat d'adoption pour réintégrer les personnes zombifiées, puisque y a eu un certificat de décès, et c'est pas pratique de vivre quand on est officiellement mort.
Bah, merci Sherlock, c'était okay. Pas du tout spooky, du tout.
C'est Halloween, hein.
Monsieur Kavnik, donc tous les morts ne reviennent pas, et heureusement. Avant la pause, on parlait des problèmes causés par les cimetières et les inhumations. Une question qu'on pourrait se poser, du coup, c'est est-ce que la crémation, finalement, c'est plus écologique ?
Alors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, une personne défunte pollue. Bon, il y a même beaucoup de vivants, déjà, qui polluent avant de décéder. Mais sûr. Après, bon. Il y a, donc, comme on l'avait dit, donc, deux possibilités, inhumation ou crémation. Dans l'un ou l'autre cas, il va y avoir une pollution. Pour la crémation, donc, ce sera une pollution donc, avec le CO2 qui sera plus importante au moment de la crémation. Mais lors de l'inhumation au cimetière, sur du long terme, eh bien, ce sont, je dirais, les, je dirais, il y aura une pollution sur par l'ozone, etc. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, bon, il n'est pas possible de passer outre cette pollution, sauf en ayant une attitude intelligente, comme on l'avait dit, c'est-à-dire ne pas accepter donc d'injection de produits formulés, prendre des cercueils beaucoup plus simples et sans vernis polluant, ne pas accepter, je dirais, des pratiques qui vont s'ajouter à la pollution d'une inhumation, d'une crémation.
Parce que d'après ce que j'ai vu, la Fondation des services funéraires de la ville de Paris a en fait mené une enquête sur les différents obsèques d'Île-de-France, et le résultat, c'est que finalement, une inhumation, ça émettrait 3,6 fois plus de gaz à effet de serre qu'une crémation. Mais après, forcément, dessus viennent s'ajouter aussi toutes les questions qu'on a pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire les amalgames dentaires, toutes ces choses-là, le mercure et tout ce qu'on a pu accumuler dans le corps, qui finalement, une fois brûlés, vont être disséminés dans les airs.
Naturellement, le mercure, je dirais, se trouve dans les anciens plombages dentaires, donc il n'y avait pas de plomb mais du mercure. Et le mercure, donc lorsqu'il y a une crémation, la température du four et de la cheminée est d'environ 900 degrés. À partir de 400 degrés, le mercure devient gazeux, donc partira dans la cheminée et retombera ou retombait dans les vergers voisins. Donc c'est même pas une pollution traditionnelle, c'est tout à fait criminel pour les personnes qui habitent sous le vent d'un crématorium.
Parce qu'en plus, si j'ai bien compris aussi, là on parlait de 900 degrés donc pour le four qui sert à cuire hein, finalement, mais le formol lui brûle finalement qu'à 1000 degrés, c'est-à-dire qu'en fait il n'est même pas brûlé par la crémation.
Alors le grave problème aussi avec le formol, c'est que le formol et les graisses humaines vont provoquer donc une formation de dioxine. La dioxine, si vous avez entendu parler dernièrement de Rouen, il y avait aussi Seveso en Italie, et est un poison neurotoxique.
Oui.
Et je tiens à souligner que la France et l'Angleterre sont les deux seuls pays d'Europe qui acceptent une crémation après qu'il y ait eu injection de produits formulés. Ceci est totalement interdit dans tous les autres pays d'Europe.
Les autres, c'est toléré que s'il y a un rapatriement, mais il n'y a pas de crémation possible, c'est forcément une inhumation.
C'est même pas ça. C'est-à-dire que l'injection de produits formulés au niveau international, je dirais, est obligatoire pour le rapatriement vers certains pays. Mettons un rapatriement vers les États-Unis, il devra y avoir un cercueil zingué étanche ainsi que des injections de produits formulés. D'accord. Mais dans tous les autres pays d'Europe, excepté la France et l'Angleterre, les injections de produits formulés ne sont pas acceptées, étant donné qu'il y a d'autres techniques de conservation qui existent. Vous avez, par exemple, dans les chambres mortuaires des hôpitaux ou les chambres funéraires privées, vous avez des cases réfrigérées, donc avec le froid physique. S'il y a un décès au domicile, il est possible de mettre des sachets de glace carbonique, soit le près d'un lit ou d'une rampe réfrigérante, donc de nouveau par le froid physique. Il y a d'excellents résultats, ceci coûte beaucoup moins cher et ceci n'est pas polluant.
D'accord. Parce que j'ai vu aussi que donc, sur cette pollution, en fait, donc il y a plusieurs études qui ont été menées. Donc en gros, si j'ai bien compris, il y a une association qui s'appelle Non au Mercure, qui est une association anglaise qui a mené une étude en 2003, mais en fait qui l'a menée sur 37 ans avant ça, et qui a étudié près de 240 000 femmes enceintes et résidant près des crématoriums. Et il s'avère qu'il y a un risque accru de 17% d'un développement incomplet de la colonne vertébrale et de 12% de défaut cardiaque chez le nouveau-né. Et la Suède, d'ailleurs, en 2010, avait mené une même enquête et avait conclu que les rejets au mercure liés à la crémation représentaient environ un tiers des émissions de mercure nationales. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils ont poussé à cet arrêt de crémation.
Alors, il y a, premièrement, bon, la pollution mercurielle aérienne, la plus grave, c'est par l'intermédiaire donc des crématoriums, entre autres en France, puisque... D'ailleurs, pas encore tous les crématoriums en France sont équipés de filtres. Et vous avez des pays comme les pays nordiques qui ont interdit les amalgames dentaires pour ensuite uniquement donc, d'autres produits au niveau dentaire qui n'avaient pas donc, de mercure.
Mais vous disiez là que du coup, il y a des crématoriums qui ne sont même pas équipés de filtres, encore maintenant ?
La loi précise, ça a été maintes fois repoussé par les sociétés de pompes funèbres, mais la loi précise qu'en 2018, tous les crématoriums devaient être équipés de filtres. Comme par hasard, il y en a encore un grand nombre qui ne le sont pas.
Il y a aussi bon, une autre question, on n'aura pas forcément le temps de la creuser, mais avec le réchauffement climatique et la fonte des permafrost, dont on a pu parler d'ailleurs dans notre dernière émission, que vous pourrez trouver en podcast sur le site bientôt, en fait finalement il y a des maladies qui ressortent, puisqu'avec la fonte des permafrost et aussi avec les carottes polaires qu'on peut faire, par exemple il y a de l'anthrax qui est ressorti, sachant qu'en gros elle était disparue depuis 75 ans dans la région de la Sibérie, mais avec la fonte c'est un cadavre de renne qui était mort depuis plusieurs dizaines d'années et qui a libéré en fait cette bactérie. Et donc, comme quoi, finalement, les maladies qui peuvent être enterrées, finalement, on peut les retrouver plus tard.
C'est des virus zombies ?
Presque.
Du coup, si on les brûle, c'est peut-être plus sûr sur cet aspect-là, par contre.
Bah, ça dépend. Tu sais pas ce qui se passe après. Donc, je vous propose de faire une petite courte pause et de se retrouver ensemble pour parler des solutions à tout ça. Mais on va prendre quelques minutes pour écouter Frapper aux portes du paradis.
We'll be right back.
Donc c'était Guns N' Roses. C'était Guns N' Roses, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et nous arrivons bientôt au bout de cette heure avant la fin du monde. On a pu parler tout à l'heure des solutions qui pourraient être en remplacement, donc les cercueils en carton, des cercueils en osier, remplacer tout ce qui est vernis par plutôt de la cire, des choses qui sont voilà, un peu plus naturelles, réduire peut-être les pierres tombales, être voilà, plus dans ces choses-là. Mais je voulais parler un peu de solutions qui sont interdites en France, qu'on a pu le dire, mais qui sont en test dans d'autres pays. Quelque chose, par exemple, moi qui avait attiré mon attention, c'était le costume champignon, qui s'appelle le burial suit, donc littéralement costume d'enterrement. Et en fait, c'est une initiative, une tenue mortuaire qui a été faite par une entreprise new-yorkaise, qui du coup intègre dans ses tissus des spores de champignons. Donc avant de l'enfiler, il faut badigeonner le corps du défunt d'un baume également composé de spores fongiques. Mais finalement, une fois qu'il est habillé et enterré, ça permet d'accélérer le processus de décomposition, d'élimination des toxines. Et en plus, ça aide à hâter la transmission des nutriments vers les plantes. Alors, on peut dire c'est moche ou ce qu'on veut. Ça a été designé par Daniel Silverstein, qui est un grand designer de robes de star. Et bon, faut quand même débourser à peu près $1,500 pour avoir cette magnifique combinaison.
Ouais.
Donc c'est pas quelque chose de très répandu. Mais il y a aussi d'autres choses qui ont pu être un peu discutées. Par exemple, l'aquamation, qui en fait est la crémation sans flamme. Donc grosso modo, on met un corps dans un caisson qui monte en pression à 10 bars. On le laisse cuire à 180 degrés pendant 12 heures et avec une solution, donc un mélange d'eau et d'alcalin. Et finalement, tout ça va dissoudre tous les tissus et tous les organes, le sang, etc. pour en faire une espèce de petite soupe. Et ça va dissoudre les os pour en faire une poudre. Et finalement, on extrait le liquide. Donc après, on se pose une question de comment c'est utilisé. C'est toute une question aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment de suivi de ça. Donc certains disent que ça retourne dans les égouts, d'autres qui disent non, ça sert de compost. Mais après, au final, ce qu'on récupère, c'est les cendres, finalement, puisque c'est de la poussière d'os. Et on peut retirer justement les amalgames et tout ce qui est prothèses dentaires et compagnie pour éviter cette pollution par la fonte et du coup un recyclage plus propre. Finalement, les analyses qui ont été faites montrent que ça pollue 10 fois moins qu'une crémation. Là où c'est problématique, c'est que du coup, ça coûte cher. C'est entre 150 000 $ pour les plus basiques, et ça peut monter jusqu'à 500 000 $. Là, je ne parle pas du prix de la crémation, mais du prix de l'outil, donc de la cuve. Mais il s'avère qu'en fait, ce qui est répercuté sur les familles des défunts, aux États-Unis, ça coûte moins cher qu'un enterrement ou qu'une crémation. Voilà, après, il y a tout un tas de petites choses, donc on a pu en parler, hein, les cercueils qui étaient donc en papier. Mais il y a aussi une initiative que je trouve intéressante, qui est en train de grandir en France, qui en fait est celle des cimetières un peu plus responsables, donc avec des tombes paysagères qui sont installées sur de l'âge d'espace de verdure. La chaleur et les eaux de pluie sont récupérées pour être réutilisées. On installe souvent des ruches d'abeilles pour favoriser la biodiversité. Et là, par exemple, sur le cimetière de la Joncherolles, qui en fait correspond à 20 hectares, qui est posé à Saint-Denis sur les communes de Pierrefitte, Épinay, Saint-Denis, Saint-Ouen, Ville-Tanneuse. Depuis 2013, ils sont dans cette démarche environnementale. Et donc, on peut retrouver à peu près 30 000 végétaux, 10 400 mètres carrés de haies et plus près de 3 000 arbres qui viennent verdir le cimetière et qui en fait offrent des heures de promenade aux personnes qui viennent visiter les morts et dans un cadre moins aseptisé, on va dire, beaucoup plus bucolique.
Ça devient un parc.
Exactement. Et aussi, chose à préciser, si j'ai bien compris, les cimetières ne peuvent pas être en zone inondable, c'est bien ça?
Alors, en effet, les cimetières, généralement, sont sur les terrains les moins bien exposés, les plus pierreux. Et naturellement, bon, un cimetière doit pouvoir répondre à un possible creusement. Donc, c'est-à-dire, ne doit pas être dans une zone inondable. Oui.
Aussi, une autre chose que j'ai entendue, c'est l'humusation.
Alors il y a, oui, à titre expérimental, l'humusation, c'est-à-dire c'est mettre dans une fosse avec du bois, des copeaux, des branchages, le corps qui va se décomposer. Je dirais c'est la thanatomorphose qui va s'étaler sur environ un an. Et puis on récupérera donc le tout Donc avec la terre, donc ça fera environ 1 mètre cube de terre où l'on pourra replanter donc des arbres dans cette terre qui contient des restes humains. Mais pour l'instant, au niveau législation, je dirais il y a des discussions et ce n'est pas autorisé en France.
Puisqu'en plus, au bout d'un an, il faut retirer le corps et du coup, il y a vraiment plus de sépulture pour la famille, c'est ça ?
Il n'y a plus de corps, mais l'être disparu est dans la terre, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quoi faire de cette terre et quel est son statut.
D'accord. Merci. Donc du coup, voilà, il y a aussi donc des recommandations. Par exemple, si vous, enfin voilà, choisir un cimetière qui est plus proche de, bah, finalement, de chez les personnes qui vont venir vous voir, si possible. S'il y a une dérogation pour être enterré sur une propriété privée, ça permet de réduire aussi ce trajet. Par contre, il faut faire attention, il faut avoir bien les dérogations signées, puisque ça impose en fait après.
Alors, généralement, un maire ne donne pas l'autorisation d'inhumation sur un terrain privé parce qu'il y a des droits de passage, des obligations de police et toute personne peut venir demander à toute heure de venir se recueillir donc, sur la tombe de la personne défunte. Donc, c'est-à-dire que la valeur du terrain lui-même chute et d'autre part, vous ne pouvez plus toucher à cette concession, à la sépulture, parce qu'autrement, ça devient une violation de sépulture et c'est du pénal.
D'accord, bah merci. Avant de vous laisser du coup le mot de la fin, je vais passer la parole à notre ami de MapMonde, qui du coup vient de rentrer dans le studio. Vous parlez de quoi ce soir ?
On va pas être très original, on va faire une émission spéciale Halloween. On est un peu en roue libre.
Parfait.
Ça va être un peu géographique, mais pas trop. Voilà, c'est tout.
Bah nickel. Merci à vous. Je vous laisse le micro dans quelques minutes. Et du coup, je vous remercie encore Michel Kavnik. Et je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose pour conclure.
Alors, en tous les cas, je tiens à vous remercier donc, de m'avoir convié. J'ai essayé de répondre à une grande quantité donc, de questions, en sachant que l'Association française d'information funéraire a un site internet, afif.asso.fr, ainsi qu'une permanence téléphonique, donc, qui peut être trouvée sur internet très facilement. Mmh. Et toute aide est apportée donc, aux familles, à savoir comment sélectionner une société de pompes funèbres, ce qui est obligatoire, pas obligatoire, ce qu'il faut accepter, ne pas accepter, qu'est-ce qui se passe quand il y a un décès dans un hôpital, dans une maison de retraite ou à domicile, ne être le moins manipulé et trompé possible quand il va y avoir un décès, parce que les sociétés de pompes funèbres sont totalement libres de leurs tarifs et pour des produits ou des services similaires, les prix peuvent varier du simple au double, au triple, au quadruple. Mmh.
Eh ben, je vous remercie beaucoup.
Donc beaucoup de choses à changer alors.
Exactement. En tout cas, on peut tous agir à notre échelle. Ce qu'il faut, c'est s'informer, discuter et pas hésiter à poser des questions. Voilà, ne pas signer sans s'en rendre compte et surtout se renseigner à l'avance et en parler à ses proches. Donc je vous remercie tous.
Bah oui, merci.
Merci bien. Bruno,
bonne
Charlotte.
Soirée.
Merci
et
Michel.
Joyeux Halloween.
Merci Michel et joyeux Halloween.
Radio Campus Paris 21h.